rebelle de Kinshasa. Je suis tout à fait d'accord.
Moi, c'est André Lumbumba, Okata Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Le 20 octobre dernier, le gouvernement congolais avait pris la décision de revoir à la baisse les prix des marchandises sur toute l'étendue de la République. Selon le ministre de l'économie, il est temps que les grossistes ainsi que les détaillants se débarrassent des éléments qui surchargent la structure des prix. Une semaine après, quelle est la situation chez vous? Composez le 081-890-6315 ou encore le 081-890-6343-39 pour votre intervention en direct. Vous pouvez aussi nous rejoindre à notre adresse pa@radiocapi.net et vous avez également la possibilité de déposer vos commentaires sur notre page Facebook. Titi Mputu, Pirou et la Meji, Nadine Foula et Jean-Claude Siala et Sikerite Sidiakala réalisent cette émission. Jir Nungembo vous la présente sous la supervision de Nicole Ngaka. Merci encore de votre fidélité. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons en ligne Christophe Kalalambayo, secrétaire général à l'économie. Et bonjour, le secrétaire général.
Bonjour, cher Sénat.
Voilà, monsieur le secrétaire général, c'est vrai, nous avons tous suivi l'actualité. Aujourd'hui, où en est-on avec cette décision du gouvernement congolais?
Merci pour la question. Avant de répondre à votre question, je salue d'abord les auditeurs et auditrices de la radio Capi qui nous suivent en ce moment. Comme vous le savez, monsieur le journaliste, nous sommes dans un processus qui a commencé il y a de cela plus d'une année. Tout est parti, n'est-ce pas, du rapport maintenant. Vous savez que dans ce pays ici, depuis plusieurs années, la tendance donc des prix des produits de grande consommation a toujours été donc haussière. Et aujourd'hui, la politique du gouvernement est de faire l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut renverser la tendance. C'est ce que vous avez constaté. Nous sommes sur le terrain pour voir dans quelle mesure nous devons donc renverser cette tendance-là des prix, lesquels pendant plusieurs années sont toujours donc, c'est donc à la hausse.
Alors, à ces jours, les informations en notre possession, et si nous tenons donc au propos de son Excellence Monsieur le Ministre, lors de son passage à l'émission Éco d'économie de Radio Capi hier, il a dit, je souligne, qu'effectivement, il y a certains grossistes qui ont déjà pris des engagements et ont respecté, il a cité quelques-uns, mais le problème reste au niveau des détaillants. Vous le confirmez?
Le ministre a raison et je le confirme.
Voilà, donc sur terrain, maintenant, qu'est-ce qui doit être fait? Est-ce que vous devez encore organiser des rencontres avec des détaillants?
Ce que vous devez savoir est qu'il s'agit des prix concertés, c'est-à-dire pouvoir public, FEC et l'ANEP. Et puis, pour donc rationaliser cela, nous devons donc le faire dans le cadre donc, d'un comité de suivi, donc lequel est composé donc des membres venant de toutes les différentes donc structures. Qu'est-ce que nous faisons maintenant? Si déjà il est établi qu'au niveau des importateurs et distributeurs, les prix concertés existent, à notre niveau en tant que gouvernement, à notre niveau en tant qu'économie nationale, nous devons maintenant donc suivre la filière, savoir à quel niveau il y a blocage. Si l'importateur est connu, peut-être le distributeur n'est pas encore connu, et encore moins le détaillant. Ce que nous disons à la population congolaise, c'est un circuit qui est donc superflu. Il y a beaucoup d'intervenants pour la même marchandise. Il y a beaucoup d'intervenants avant que ça donc arrive au consommateur. C'est là où ça pose des problèmes. Et c'est ce qui fait que depuis plus de deux jours, trois jours, nous sommes sur le terrain pour détecter ces donc des pratiques. Je pense que tout le monde suit la télévision, les images parlent. C'est un processus. C'est pas aujourd'hui qu'on... Oui.
Voilà, monsieur le secrétaire général, concrètement, pour faire une idée claire à la population, aux populations qui nous suivent en ce moment, oui. Prenons les cas, par exemple, de produits qui est très consommé en RDC, le séchard. Aujourd'hui, un carton de séchard, est-ce qu'on peut dire quel est le prix à baisser?
Bon, je souhaitais donc que vous dites que le séchard est consommé à Kinshasa, pas en RDC. Et donc, vous savez, chaque province a quand même ses habitudes alimentaires. Si à Kinshasa, c'est le séchard, chez moi au Katanga, par exemple, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pourquoi nous disons que pour le séchard, qui est un produit phare, nous faisons de sorte que les prix soient respectés. Aujourd'hui, vous pouvez le vérifier auprès des importateurs, les prix sont respectés. Auprès de certains distributeurs, les prix donc sont respectés. Mais le problème se pose au niveau des acteurs, qui sont à la fois importateurs, distributeurs et détaillants. C'est ça, nous voulons aujourd'hui mettre fin à cette pratique pour que la baisse qui est donc déjà acquise au niveau des importateurs puisse donc se répercuter sur le marché, pour que la population comprenne que l'État existe et que nous sommes là pour l'encadrer.
Oui, on sait tout de même que les détaillants, subissent l'effet d'attentisme parfois, parce qu'ils se disent, comme les prix sont souvent, disons, en fluctuation, dans la mesure où les importateurs proposent un prix aujourd'hui, demain ils peuvent changer, et les détaillants ne veulent pas souvent prendre des risques. Sinon, ça aurait été automatique du moment où les grossistes ont baissé les prix, et c'est là allait avoir des conséquences même au niveau des détaillants, mais c'est ce qui n'est pas fait dans la pratique.
Vous avez raison, mais je profite de cette occasion pour rassurer la population congolaise que à partir d'aujourd'hui, les prix donc du séchard, tout comme les autres produits retenus. Allô?
Allô, on vous suit.
Oui, je dis que je dois rassurer donc la population que les prix ne vont plus augmenter, étant donné que nous sommes convenus pour que, ensemble, avec nos partenaires, que nous puissions chaque fois qu'un élément donc des prix donc bouge, qu'on puisse donc se rencontrer dans le cadre du comité de suivi pour donc en décider. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, à partir de ce jour, comme nous le faisons avec les produits donc pétroliers, les prix des séchards feront l'objet des concertations. Et les prix que vous constatez donc aujourd'hui, nous les avons fixés. Sur base des prix de valeur forte très élevée. N'oubliez pas que présentement nous sommes dans une période de basse saison. En d'autres termes, la production donc est réduite. C'est une situation qui peut donc nous amener jusqu'à fin mars, début avril. Ce qui veut dire que début avril jusqu'à septembre de l'année prochaine, nous entrons donc dans une période de haute saison et que les prix vont baisser. Qu'est-ce que ça veut dire? Au finish, on aura donc à revoir ces prix que nous avons aujourd'hui à la baisse. Donc, ce que nous avons comme prix aujourd'hui, ce sont les prix les plus élevés qu'on a donc à constater. Voilà, moi, ça, je peux vous dire à ce moment.
Voilà, mais on sait tout de même que les vrais problèmes, c'est au niveau de la nomenclature des prix, hein, parce qu'actuellement, la population n'a pas une idée très claire sur cette nomenclature. Et d'un autre côté, il y a aussi les problèmes de suivi. À l'époque, il y avait des agents économiques qui, en fait, sillonnaient dans des marchés ou encore dans des grands centres de négoces pour vérifier ou pour faire le suivi des décisions du gouvernement quant à la nomenclature des prix. Mais aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de gens attendaient cette nomenclature qui n'arrive toujours pas.
Non, la nomenclature est là. Existe. Vous savez que ce que les gens donc ne savent pas, dernièrement, quand le ministre de l'économie a pris donc la décision donc de réglementer le petit commerce, on a fait écho à ça, que ceux qui n'ont pas l'information, l'information nous contactent. Elle est là, elle existe, que tout celui qui a besoin d'une information passe chez nous à l'économie pour
l'information. Prendre connaissance. 081 890 6315 ou encore les 081 890 4339.
Parole aux auditeurs.
Monsieur le secrétaire général, nous vous gardons encore en ligne. Il est temps pour nous de recueillir aussi les interventions des auditeurs qui nous ont rejoints. Arsène qui est à Kikwit. Maître Machaka Lubumbashi. Arsène, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Arsène, le 20 octobre dernier, le gouvernement congolais avait pris la décision de revoir à la baisse des prix des marchandises sous toute l'étendue de la République. Alors, une semaine après, quelle est la situation chez vous à Kikwit?
Merci beaucoup pour la parole. Je viens de suivre le secrétaire général, mais je suis un peu sceptique dans la stratégie qu'ils ont établie pour baisser les prix sur le marché. Bon, il y a une semaine, on a pris les décisions, mais ça ne serait pas honnête de dire qu'une semaine après, on peut avoir des répercussions sur le terrain. Et en plus de ça, la stratégie qu'ils ont mise sur place, ils regardent les importateurs. Les importateurs engagent leurs moyens pour faire venir ce qu'ils ont besoin ici chez nous. Mais la théorie de la baisse de prix dépend de la théorie de la production et de la demande. Je crois que la demande ici chez nous est toujours en hausse, mais la production sur place est en baisse par rapport à la production. Non, je voulais dire que par rapport à la situation du terrain, nous ne produisons pas. Nous allons de plus en plus vers les arrêts de nos outils de production que vers l'augmentation de l'outil de production. Tenez, par exemple, vous avez donné l'exemple de Saint-Charles. Comment est-ce que le Saint-Charles peut baisser le prix aussi longtemps qu'il n'y a pas un accent mis sur la production de nos poissons sur place, sur le fleuve, dans les étangs et par-ci, par-là, là où on produit du poisson? Pourtant, je prends l'exemple type de la production du tilapia. Vous croyez que le tilapia est moins respecté ou bien moins voulu que le Saint-Charles? Moi, je crois que le tilapia, c'est un bon poisson, mieux que le Saint-Charles. Mais pourquoi, lui, en tant qu'économiste, il n'a pas établi une stratégie pour augmenter la production de Saint-Charles, et cette production de Saint-Charles va faire baisser le prix de Saint-Charles sur le marché. En tout cas, je suis vraiment sceptique que cette stratégie peut tenir convenablement pour faire baisser le prix sur le marché. En tout cas, je ne crois pas. Ça, c'est une façon de tromper la population. Excusez-moi le mot, mais je crois que ça, c'est tromper la population.
Oui, oui, Arsène, il faut noter que même le rapport MENA a fait quelques propositions. Hein. Il a même dit qu'il était vraiment nécessaire pour que le gouvernement puisse créer des conditions pour une plus forte indépendance alimentaire. Et cela pourrait passer que par la promotion et à la professionnalisation de l'agriculture. Donc je crois que si on en arrive, nous serons indépendants d'une manière alimentaire, et ça pourrait, bon, ça réjouit quand même votre point de vue lorsque vous parlez de la théorie du prix qui suit au fait la loi de l'offre et la demande, ce qui revient à dire qu'il faudrait vraiment produire. Merci beaucoup Arsène d'avoir appelé de Kikwit. Maître Machaka, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour Monsieur Gier, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kapi.
Voilà, par rapport à cette décision une semaine après, quelle est la situation chez vous à Lubumbashi, Maître Machaka?
Merci beaucoup, M. Gier. La situation ici chez nous, à Lubumbashi, est stand-by. Je ne vois pas quelque chose qui est changé. Mais j'avais une préoccupation à adresser à l'invité, puisque en suivant la décision du ministre, il a demandé aux grands commerçants et aux petits commerçants de se débarrasser de ces éléments et des éléments qui surchargent la structure du prix. Je ne sais pas si l'invité pourrait nous donner des précisions sur ces éléments-là qui surchargent, hormis les certaines baisses de taxes qu'il a relevées sur l'importation. Mais nous voyons que parmi les éléments qui surchargent le prix, il y a la TVA, parce que la TVA aujourd'hui, M. Gier, sans vous cacher, c'est nous, les consommateurs, qui payons la TVA, ce n'est pas les commerçants, puisque je vais vous donner un exemple, M. Gier. Auparavant, par exemple, quand on payait un sac de riz ici chez nous à 50 000 francs, depuis qu'on avait donné, on a pris la décision d'ajouter la TVA aux commerçants, le sac de riz est passé de 50 000 à 60 000. À ce moment-là, vous allez dire que ce sont les commerçants qui supportent la TVA ou bien c'est nous les consommateurs? C'est nous les consommateurs. Ça, c'est ma première préoccupation que je voulais m'adresser à l'invité. D'aider en suivant mon confrère de
Arsène de Kikwit,
il a tout à fait raison. Ça, c'est une décision palliative. Ce n'est pas une décision définitive, puisque les prix dépendent toujours de l'offre et de la demande. Et ce que notre gouvernement devrait faire, c'est de faire de sorte que la production soit augmentée à tous les niveaux à ce moment-là. Je crois que
le prix doit se faire le baisser d'elle-même. Ça, c'est un bébé. Quand le ministre a pris cette décision-là de demander aux commerçants de...
ramener les prix à la baisse, il faut aussi monter les garde-fous, puisque aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec nos services de l'État? Quand le ministre prend une décision pareille, tous ces gens-là qu'on va envoyer comme des contrôleurs et consorts, ils se réjouissent puisque ils seront corrompus là-bas et ils arrivent même, ils trouvent que le commerçant n'a pas fait quelque chose, ils ne feront rien. C'est que je peux encore demander à l'excellence, le ministre, c'est de monter les équipes dynamiques des gens qui sont honnêtes, des gens patriotes. C'est à ce moment-là que cette décision va produire. Mais présentement, ici chez nous, à Lubumbashi, il n'y a rien qui se voit, puisque les verdis, les denrées de première nécessité, c'est les riz, les sucres et les carburants. Je crois, les commerçants, que ce soit les
produits,
que ce soit les détaillants, ils continuent à vendre dans les anciens, avec l'ancien prix, Maître JR.
Merci beaucoup, Maître Machaka. Vous avez parlé de quelques éléments qui surchargent, en fait, la structure des prix, notamment la TVA. Et aussi, vous vous inquiétez sur les mesures d'application. Et c'est une bonne décision que vous avez, du reste, saluée, mais vous craignez au niveau de l'applicabilité, au niveau de l'application, donc, que les mesures-là d'application ne puissent pas suivre. Merci beaucoup, Maître Machaka. Michel, vous êtes à Matadi. Bonjour.
Oui, bonjour, Maître de Jean-Louis.
Vous avez la parole, Michel.
Oui, je voudrais juste commencer par un petit exercice. Vous savez, il y a quelques jours passés, nous avons suivi les rapports de l'ONG Ibrahim. C'est une ONG internationale et je crois que vous êtes au courant en ce qui concerne la RDC au classement par rapport à l'indice de la pauvreté. Si 53 pays africains dont fait partie la RDC, nous occupons la 52e place au classement. Après vient la Somalie. Ce qui veut dire, cette remarque-là devait interpeller nos autorités. Moi, j'ai compris seulement que nous avons des mauvais dirigeants. Pourquoi? Parce que, avec tout ce que nous avons, vous savez, le Rwanda, il n'y a aucune richesse au Rwanda, mais le Rwanda occupe 8e place. Ce qui veut dire qu'il y a de la volonté dans notre chef des États pour faire en sorte que les choses puissent évoluer. Parce que la première
chose que l'État doit faire, c'est combattre
la famine.
Oui, Michel, quand vous parlez du Rwanda, vous dites que le Rwanda n'a aucune richesse. Bon, je ne sais pas, vous faites allusion à quoi? Aux minerais, aux ressources naturelles?
Ah, oui.
Ben, je pense que il y a quand même, au niveau de la production, tout le monde le sait, le Rwanda produit des bananes. Et avec ces bananes, je crois qu'ils ont arrivé à faire quelque chose. Vous allez à Gisenyi. Bon, je ne sais pas si je me trompe.
Oui, bon, je peux me racheter là-dessus. Et même pas le Rwanda, je peux aussi citer le Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal occupe la 2e place. Mais il n'y a que les arachides. Donc, ce qui veut dire, je disais, il faut de la volonté. Vous savez, avec des régimes de... non, à l'époque de Mosito, nous avons vu les ministres qui s'occupaient du commerce. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu à mettre en place des lois afin que les petits commerces ne soit plus exercé par des étrangers. Mais rien n'a été fait. Aujourd'hui, nous le savons. D'ailleurs, moi, je ne sais pas, je vous là à Kinshasa et dans d'autres provinces. Mais nous, le malheur est que tous les commerçants, tous les étrangers, ils vendent leurs installations commerciales, sont en face de notre bureau du gouverneur. Mais les autorités passent par là, ils voient ce qui se passe, mais ils ne font rien. Moi, je crois, est-ce que dans un pays comme la RDC,
oui, mais je crois que Michel,
vous pouvez
Michel...
vendre une boîte de tomates dans un même rayon à des prix différents?
Oui, Michel.
C'est anormal.
Voilà,
c'est anormal.
Michel,
moi, je crois qu'il faut une étude ministère de là-dessus. Donc, il faut qu'il y ait de la volonté. Parce que, n'oubliez pas, nous sommes le pays où les taxes, où nous payons plus de taxes. Mais le même pays où les choses n'avancent pas. Moi, je crois qu'on doit mettre chaque chose à sa place.
Et oui,
c'est pour... ce n'est pas... Moi, je ne connais pas les commerçants. Moi, je ne connais pas. Parce que les commerçants, tout commerçant, lorsqu'il veut faire une activité commerciale, c'est au but de réaliser un bénéfice. Mais lorsque l'État n'est pas là, mais il peut exagérer. Il peut faire tout ce qu'il veut. Et aussi, il paye des taxes. Il paye des taxes trop chères. Et je ne sais pas quel est ce commerçant qui peut mettre son argent en jeu en fait qu'à la fin. ils puissent réaliser la perte.
Voilà, voilà.
Donc, tout ça doit être ordonné.
Voilà, Michel, je crois que là, c'est pour votre gouverne. Le rapport MENA a même évoqué, à titre illustratif, le cas de l'exercice 2012, par exemple, où la marge bénéficiaire des importateurs en RDC s'est située à plus de 33%, soit trois fois plus supérieure à la marge légale en ce qui concerne notamment les chéchards que nous parlons souvent. Donc c'est pour dire que c'était quand même une étude très très minutieuse, mais aujourd'hui ce sont des mesures d'application pour matérialiser cette décision du gouvernement congolais. Merci beaucoup Michel d'avoir appelé de Matadi. Et nous revenons à vous, à notre invité, monsieur le secrétaire général, Christophe Kalala. Vous avez suivi cette première série des auditeurs qui ont évoqué, disons notamment, la question, la théorie de l'offre et la demande. Alors, qu'est-ce que vous répondez aux uns et aux autres?
Merci pour la question, monsieur le journaliste. J'ai bien suivi l'intervention des auditeurs, donc, de Kikwit, suivi de celui de Lubumbashi et Matadi. Si j'ai bien compris... Allô?
Oui, allô?
Oui, si j'ai bien compris, ils n'ont pas vraiment eu de préoccupations relatives, n'est-ce pas, à la question posée. Nous parlons des prix, bon, je constate que pour la plupart, donc, intervention, ce sont des conseils, je les remercie, j'ai bien suivi, ce sont des conseils. Pour ce qui est donc de l'offre, hein, de la demande, tout ça, de l'offre et la demande, je dois dire ceci, il s'agit des produits importés, pour lesquels, n'est-ce pas, nous devons en tout cas fixer les prix. La production, ça c'est une autre étape. Le gouvernement a déjà donc levé des options en cette matière-là, mais nous disons que avant de produire, il faut quand même que nous régulons le marché. Puisque nous ne produisons pas, nous devons importer pour faire donc face à la demande. C'est parce que ce que nous faisons, et il faudrait aussi que ces produits-là soient vendus à des prix justes. Et pour qu'on y arrive, il faut que nous arrivions donc à détecter, à déterminer les éléments qui composent ces prix-là. Ce que nous appelons des charges, donc des perceptions illégales, au niveau par exemple de nos frontières. Et il en est aussi du comportement aussi de nos partenaires importateurs, qui mettent dans les prix des éléments donc superflus. Donc tout ça, c'est à la charge de l'économie nationale. Et c'est pourquoi nous sommes là. Et c'est pourquoi donc nous en parlons aujourd'hui. La production, oui. Il n'y a pas donc développement économique sans production. Moi, je pense que ça relève de la compétence du gouvernement. Tout ça, et le gouvernement est déjà donc sur cette matière. Je ne vois pas pourquoi on doit donc faire débat aujourd'hui. Parlons des prix des chinchards. Il y a donc l'auditeur de Lubumbashi qui dit qu'à Lubumbashi, il n'y a rien, tout ça. Effectivement, nous avons toujours dit que Kinshasa n'est pas la République. Nous disons que si à Kinshasa, c'est le chinchard qui est le produit phare. Je l'ai dit, à Lubumbashi, ça peut être un autre produit. Nous comptons, mais à l'instar de la commission ou du comité de suivi que nous avons créé ici à Kinshasa, on va donc créer des sous-commissions au niveau donc des provinces. N'oubliez pas que l'économie nationale est représentée en province par des décisions provinciales. Donc chaque province aura aussi une sous-commission ou un sous-comité de suivi. Et c'est à partir de ces structures-là que chaque province aura donc à discuter des problèmes qui se posent. Dans les
contrats. Voilà. Oui, mais Maître Machak a parlé de, parce qu'il a Lubumbashi, hein, il a donné même un exemple, je ne sais pas que cela va vous inspirer, un sac de riz qui coûtait 50 000 à l'arrivée de la TVA, ces sacs coûtent aujourd'hui 60 000 francs congolais.
Bon, de toute façon, nous disons que la TVA n'est pas un élément du prix des revient. La TVA, c'est un impôt. Mais le prix, donc, d'un importateur n'est pas lié à la TVA. Ça, c'est une politique nationale qui veut que, à chaque produit donc acheté, que l'État puisse percevoir donc cette taxe-là. C'est un impôt qui n'a rien à faire avec les prix. Nous, nous parlons d'abord des prix. Les prix à l'importation. Comment est-ce qu'ils sont donc composés? Si les gens en amont, ils sont donc surchargés, ça va poser problème au niveau de la consommation. Moi, je pense que c'est ce qui fait nous préoccuper.
Oui, alors, monsieur le CG, ce sont les taxes qui surchargent le prix ou bien ce sont d'autres éléments? Et lesquels?
Bon, ça, je vous ai bien suivi, d'ailleurs, je vous remercie pour donc, votre intervention.
Et la réponse que j'ai donnée à l'auditeur.
Vous avez joué le rôle qui est mien. Vous avez dit ce que moi je voudrais faire, donc dire présentement là. Vous avez tout à l'heure évoqué le rapport maintenant. Qu'est-ce que nous avons constaté? Il y a donc des frais extérieurs qui peuvent influer donc le prix sur le marché. Puisque là, la traçabilité n'est pas vraiment donc maîtrisée. Et cela encore se répète ou se reproduit à l'interne. Une fois la marchandise arrivée au port, il y a aussi un problème qui se pose. Les intervenants, il est en même temps importateur, il est agent maritime, il est transitaire, il est transporteur ou routier, et quand il arrive sur le marché, il se dit importateur, grossiste, il se dit distributeur, jusqu'au marché, il se dit aussi détaillant. Mais c'est une pratique qui a demeuré, qui a existé pendant plusieurs années. Ce que nous demandons aujourd'hui est que la population nous accompagne pour que nous mettions fin à cette pratique.
Oui.
Alors, comme je l'ai dit au début, notre souci c'est de renverser la tendance.
Oui, monsieur.
Pendant plusieurs années, les prix étaient toujours, ne prenaient que l'ascenseur, mais nous voulons aujourd'hui faire le contraire.
Voilà.
Alors, moi, ça, je vais vous dire.
Voilà, monsieur le secrétaire général, je reviens encore sur les propos de son excellence, monsieur le ministre, lors de son passage à l'émission Éco d'économie d'hier. C'est vrai qu'il a même cité deux gros importateurs qui se sont engagés et qui ont répondu à leur engagement, notamment Ulka et puis Congo Future. Mais alors, aujourd'hui, s'il faut compter les nombres d'importateurs que nous avons, est-ce qu'on peut dire que les autres pourraient aussi suivre ou emboîter les pas aux deux importateurs qui ont répondu à leurs engagements?
Je dois donc vous assurer que les sociétés que vous évoquez là font partie, n'est-ce pas, du comité de suivi. Et nous sommes dit que tous ces problèmes-là de ce genre, donc il faut qu'ils soient donc traités au niveau du comité de suivi. Et déjà ce lundi, nous allons donc nous réunir. C'est ça même, donc la raison d'être de cette structure-là. Donc les problèmes seront traités dans le cadre donc du comité qui est déjà donc mis en place. Et je pense que ce n'est pas le moment que je puisse dire ceci, tout ça, non. Attendons voir ce qui est vrai que le cadre de consultation est là. Les problèmes seront posés et les solutions même seront donc trouvées dans le cadre de cette structure-là.
Voilà, nous vous gardons encore en ligne, monsieur le secrétaire général, parce qu'il y a encore une série des auditeurs. On va les écouter et puis on reviendra à vous pour orienter leurs interventions. 081-890-43-39.
Au Capidance, du rythme et de la chaleur, des heures de musique, les tubes du moment et les meilleures nouveautés. R&B, hip-hop, rumba électrique, pop, rap, d'Afrique ou d'ailleurs. Tous les tempos mixés par DJ Daddy. Au Capidan, les mercredis jeudi de 21h à minuit, le samedi, Megamix de 19h à minuit.
Merci de votre fidélité à Radio Capi et merci aussi de nous rejoindre, Elodie. Vous êtes à Guémena, à Jado, à Loubero. Elodie, bonjour.
Bonjour, Gérard.
Bonjour,
tu l'as invité.
Voilà, merci, Elodie. Bon. Vous avez la parole.
Ouais, merci pour la parole. Ici, à Guémena, par exemple, nous n'avons pas senti ça. Puisque pour les parents prudents, comme moi par exemple, et d'autres que je connais, on est en train de se préparer pour commencer à acheter les habits, d'autres biens qu'on en aura besoin durant la période de fête, parce que nous sommes déjà au mois de novembre. Donc nous n'avons pas senti ça. Et je voulais maintenant poser la question à l'invité. Est-ce qu'il y a une mesure concrète où il y a une mesure concrète que le gouvernement a prise pour le suivi de façon à ce que ces prix baissent? Et qu'est-ce qu'il a prévu aussi pour ces personnes-là, ces détaillants-là ou les grossistes, puisqu'ils ne sentent pas la perte parce qu'ils ont acheté des ont baissé, d'autres qui encombrent, hein, d'autres taxes qui encombrent de façon que les prix ne baissent pas. Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour les aider aussi qui ne se retrouvent pas aussi dans la perte? Et par exemple, nous qui sommes en province, c'est difficile qu'on sente aussi cette loi-là et l'application de cette loi-là que le ministre a dit. Je ne sais pas si vous m'avez compris, J.R.
Oui, on a compris, Elodie. Vous aimeriez bien savoir si réellement c'est une, c'est une mesure raisonnée, une décision prise après avoir, au fait, réuni tous les éléments. Et vous craignez que tous ces détaillants qui, au fait, ont acheté en amont peut-être à un prix très élevé, aujourd'hui on leur demande de baisser les prix, à qui reviendra la responsabilité d'assumer la perte, n'est-ce pas? Parce qu'il y aura réellement une perte. C'est ça, Elodie, hein?
Oui, voilà. C'est ça. Merci beaucoup, J.R.
Merci beaucoup, Elodie, d'avoir appelé. Un coucou à tous ceux qui nous suivent à Guémena, au nord de l'Équateur. Jado, vous êtes à Lubero. Bonjour.
Bonjour, Jerry Lungembo. Bonjour, l'invité, le secrétaire
à l'économie, qui est à
ligne. Et bonjour tous les auditeurs de cette grande émission Parole aux auditeurs. Je suis à Masere Kavisusuti, je suis au marché d'ailleurs, aujourd'hui c'est un jour de marché, et quand nous parlons d'une mesure du pouvoir central, de pouvoir aider la population pour ce qui est des prix de produits de première nécessité, ici nous consommons naturellement les produits importés qui sont les sels, le carburant, nous consommons aussi du ciment importé de l'Ouganda. Mais si je peux vous donner le prix ici, le prix est resté le même depuis le 20 octobre, comme c'est la date de cette mesure-là. Alors, nous ne savons pas si cette mesure a été prise pour toute l'étendue de la République ou si simplement c'est pour les centres-villes comme la ville-province de Kinshasa ou les territoires ici. Alors, la question qu'on poserait à l'éviter, c'est celle de savoir. Vous savez, il y a une multiplicité de taxes sur le marché. Par exemple, dans le marché où j'existe, il y a faut payer la taxe pour l'administrateur des territoires, ce qu'il faut payer la taxe pour le chef de localité, le chef de poste d'encadrement administratif, et ça pèse beaucoup sur les commerçants. Alors, quand il fait aussi, on fait le commerce et les bénéfices qu'on gagne, on ne sait pas si comment cela va se passer. Et imaginez ici à l'Est, je prends par exemple la ville de Butembo, où nous nous ravitaillons. Aujourd'hui, il y a certaines entreprises qui sont en train de fermer. Par exemple, la maison Madatès, qui a fermé tout simplement parce qu'elle était soumise à plusieurs taxes de l'État. Il y a la maison Saïbou, qui menace aussi de fermer tout simplement parce qu'elle est menacée par plusieurs taxes de l'État. Alors nous posons la question de savoir, comment est-ce que le ministre a réfléchi cette mesure, et est-ce qu'elle peut nous, le ministre, le secrétaire, peut nous donner les nombres de taxes et les noms de taxes et les personnes, c'est-à-dire les structures de l'État, c'est-à-dire les services étatiques qui sont chargés de payer ces taxes-là, pour que les commerçants puissent être capables d'identifier ces fraudeurs. Parce qu'on peut prendre une mesure, par exemple, d'exonération. Mais pour autant que les commerçants ne sont pas signifiés de cette mesure-là, ils continuent toujours à payer les taxes et ils vont fixer le prix comme il se doit. Imaginez ici, par exemple, à l'Est, à la douane, à Kassindi, parce que tous les produits passent par Kassindi ou Bounagana, et ainsi de suite. Les taxes sont tellement élevées et les commerçants font état d'une tracasserie administrative à Kassindi. Et qu'aujourd'hui, ils sont incapables de pouvoir réduire le prix. Alors, pour prendre une mesure qui concerne toutes les dernières de la République, on devait signifier au gouvernorat des provinces pour application de cette mesure, et on devait dire au gouvernorat de province comment cette mesure peut se passer sur le plan d'application. Mais lorsqu'on conserve, on prend la mesure, on n'établit pas les mesures d'encadrement, c'est ça que je voudrais poser d'ailleurs à l'évité. Quelles sont les mesures d'encadrement de cette mesure pour que produise des effets?
Merci beaucoup, parce que là, c'est comme on a toujours dit au cours de cette émission, et lorsque vous intervenez, là, dans la plupart des cas, vous insistez beaucoup plus sur les mesures d'application qui, au fait, devaient être prises en amont et non en aval. Quand on prend une décision, on étudie les fonds en comble, les ténailles, les aboutissants, il faut toujours penser aux mesures d'accompagnement, les mesures d'encadrement, afin d'éviter un vide, parce que maintenant, s'il faut mettre le comité au suivi, et ça prendra encore du temps, et l'effet qui pouvait être immédiat, ça serait un effet à long terme. Merci beaucoup, Jadot, d'avoir appelé et de nous avoir d'avoir contribué à cette émission. Steve, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Steve.
Et bonjour, Pierre.
Vous avez la parole.
Bon, moi, à mon niveau, j'ai une petite question à poser à l'invité qui se trouve sur dans le studio de la radio Capitaine.
Et n'avez-vous pas un commentaire par rapport à cette décision et par rapport à ce qui s'est fait sur le terrain à Kinshasa, par exemple?
Et d'ailleurs, je vous informerai que je suis l'un des vendeurs. Hein. Je suis aussi vendeur dans les marchés de Kinshasa ici.
Voilà, qu'est-ce que vous avez constaté depuis la prise de cette décision?
Rien n'est effectif. Hein. Souvent, nous avons une habitude ici à Kinshasa. Deux fois les décisions se prennent et restent dans les poches de ministres. L'exécution sur le terrain est presque nulle deux fois.
Mais vous êtes vendeur par souci. J'ai pas vu que vous êtes quand même nationaliste et vous êtes pris du nationalisme. Voilà. En tant que vendeur, une telle décision, pourquoi vous n'avez pas accompagné le gouvernement? Je ne sais pas si à votre niveau vous l'avez fait.
La commission de suivi de la disposition tenant à baisser le prix sur le marché. Elle-même, quand le travailleur vient sur le marché, je vous informe, Gilles, que nous avons deux clients. Dans cette commission de suivi, il y a des gens qui ont des clients sur le marché. Quand ils viennent, c'est pour des comptes de 100 dollars, 200 et partir. Et il n'y a pas une commission de suivi effective sur le terrain.
Voilà, donc, et vous voulez poser maintenant la question à notre invité?
Je dirais ceci à l'invité. Est-ce qu'il est vraiment optimiste que cette commission tiendra? Parce que, nous pouvons nous référer au passé pour juger le futur. Nous avions vu autrefois que le tracteur honteux acheté et légué au ministère de l'Agriculture. Et le tracteur honteux transformé dans des engins de construction des immeubles et des autorités. Nous connaissons aussi l'histoire du fameux barème des maudits qui consistait à rehausser le salaire de travailleurs. Jusqu'alors, rien n'a été fait. Et sur ce, est-ce qu'on peut prétendre que la commission ou encore la disposition tenant à baisser le prix sera... De toute évidence, pour
alors, parmi les objectifs, c'est vrai, cela va s'inscrire dans la durée, mais le premier objectif, c'est en fait donner aux populations congolaises l'occasion de bien fêter et surtout avec des produits de grande consommation, qu'on ne puisse pas avoir trop de spéculation au niveau des prix, parce qu'on sait tout de même que c'est saisonnier. À chaque fois que nous approchons une telle saison, généralement les vendeurs se livrent ou ça donne à des spéculations des prix. Et c'est ce qui asphyxie un peu la population.
Ben, le problème aussi, le gouvernement, comme les prédécesseurs intervenants l'ont dit, notre gouvernement n'a jamais produit. Est-ce que vous pouvez vous imaginer tout un gouvernement où on doit dépendre de l'extérieur? C'est la Tanzanie qui nous envoie des œufs, l'Afrique du Sud, la Chine, tout ça. Bon, le Congolais ne produit rien, lui n'attend que les productions qui viennent de l'extérieur. Ça, c'est quel genre de population?
Voilà, il faut en fait travailler ce côté-là, parce que comme l'avons dit, hein, tout dépend de cette théorie de l'offre et la demande. Merci beaucoup, Steve, d'avoir appelé de Kinshasa. On reste toujours dans la même ville pour accueillir Omar. Omar, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, l'excellentissime Gilles Lungembo et à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Voilà, Oscar, pardon Omar, vous avez suivi vos prédécesseurs. C'est vrai que vous avez eu aussi à observer l'applicabilité de cette décision sur le terrain. Une semaine après, quelle est la situation à Kinshasa? Qu'est-ce que vous avez constaté et comment vous commentez cette décision?
Merci Gilles. L'honnêteté voudrait que je salue la mesure prise par le ministre qui est dans les bons sens d'assainir ces secteurs. À mon avis, la situation, les bilans paraissent mitigés dans la mesure où il y a des points qu'on peut apprécier, notamment au niveau de la grande ville, au grand marché, où nous voyons les importateurs diminuer les prix. Mais les points négatifs, c'est qu'au niveau des détaillants, nous ne voyons pas l'impact de cette mesure, c'est-à-dire les lois existent, on ne sait pas toujours les respecter. Alors, j'ai même eu publié récemment, dans un centre de recherche, un article sur le respect de mesures en matière économique. Donc, nous avons eu à relever que c'est d'abord les contrôles inappropriés ou le manque des contrôles de mesures prises. Il y avait à l'époque, je crois, pendant la Deuxième République, un service, comme vous l'avez dit à l'introduction, qui était chargé de vérifier la légalité des prix. Ce service n'existe plus. Soit il existe, mais il travaille mal, soit il n'existe plus faute de rémunération. Alors, il y a aussi un problème d'impunité JR. Moi, j'ai des amis qui sont des vérificateurs policiers, la DGI, mais ils me disent comment ils fonctionnent, vous allez pleurer, ils vont là, même s'ils rencontrent des abus, ils ne savent pas sanctionner. Pourquoi? Parce que lorsqu'on leur donne quelque chose, ils ferment les yeux et ne donnent aucun rapport. Il y a un problème aussi de la torpeur du peuple. Nous avons toujours dit qu'il faut que la population aide aussi les gouvernements à bien travailler. Nous avons tous appris qu'on a pris la mesure de diminuer les prix. Si nous remarquons un opérateur qui continue à lever les prix, il serait mieux de s'élever et dénoncer cela. Et enfin, je voudrais, comme l'a dit Michel, soulever l'exorbitance des prix aussi. C'est important. En matière économique, le gouvernement ne peut pas imposer les prix aux opérateurs économiques. Il y a ce qu'on appelle la concertation. Ils doivent tenir compte des taxes qu'ils payent, du prix qu'ils payent au niveau de l'achat. Il faudra qu'on baisse aussi les taxes à ce niveau-là, ça pourra arranger. Pour finir, qu'est-ce que je peux proposer? Premièrement, il faut renforcer les prix. Michel Alix disait, la loi n'a de sens que si elle est respectée. Alors, s'il n'y a pas un contrôle approprié JR, rien ne se fera. Des deux, il faut bien payer ces contrôleurs-là, parce qu'ils sont là en train de travailler. S'ils sont mal payés, la corruption continuera, et on remarquera des lois qui seront prises, mais qui ne seront pas respectées. Et je voudrais finir par nous, population. Nous avons aussi la lourde mission de savoir dénoncer. Le gouvernement est là, il travaille, mais il ne peut pas tout faire. Nous devons dénoncer tous les contrevenants pour permettre au gouvernement d'avoir la facilité de sanctionner. Voilà ma préoccupation, JR, je vous remercie.
Voilà, merci beaucoup Omar d'avoir appelé. Nous revenons à vous, monsieur le secrétaire général, Christophe Kalala Mbayo. Oui. Vous avez suivi cette deuxième série des auditeurs.
Oui.
Alors, que répondez-vous aux uns aux autres?
Oui, pour répondre à la préoccupation de l'auditrice qui nous a appelé, qui nous a parlé de Yémena. Si j'ai bien retenu, il a donc une préoccupation. Celle est donc relative à la perte que certains pouvaient donc constater avec la baisse des prix, tout ça. Moi, j'ai dit que ce n'est pas vrai, puisque les prix que nous appliquons aujourd'hui ont été fixés il y a de cela plus de deux mois. On avait donné donc à nos partenaires un délai pour que les stocks disponibles pendant cette période-là soient donc vidés ou donc vendus. Et maintenant, les prix devraient partir des nouveaux stocks. Je pense que c'est là où nous sommes maintenant. Quant à la liste
des taxes,
bon, vous comprenez, nous sommes de l'économie nationale, cette matière fait l'objet de concertations entre nous et le ministère de Finances. Et s'il faut aussi parler des taxes, il y a des taxes qui relèvent de la compétence donc des provinces, celles qui relèvent donc de la compétence du pouvoir central. C'est pourquoi j'ai dit que la mise en place de comité de suivi au niveau de chaque province, donc ça va être vraiment donc important.
Oui. Oui, allez-y.
Et là aussi, donc, une préoccupation sur la baisse des prix par rapport à la période de fête, hein, de festivités de fin d'année qui s'annonce et tout ça. Et là, bon, je suis un peu désolé. Jusque là, au niveau de la commission, nous traitons, nous traitons donc les prix des produits alimentaire et du ciment gris. Donc il ne s'agit que des produits là pour le moment. La commission ne peut pas donc fixer les prix donc pour l'ensemble de marchandises ou des produits. Nous sommes dans une économie libérale. Je pense que ce n'est pas l'économie de fixer les prix. Et c'est pourquoi, comme l'autre intervenant a dit tantôt, c'est pourquoi nous parlons des prix concertés. Concerté, c'est pour qu'on s'entende sur les éléments qui constituent ce prix de revient-là. Voilà le sens donc de cette structure. L'auditeur de l'UBO a parlé donc du sel, du carburant, que le but considère comme étant les produits donc les plus consommés. Je dis que pour ce qui est du carburant, je pense que le carburant fait déjà l'objet de concertation. Les prix ne sont pas fixés donc par les importateurs. Non, il y a une structure de suivi. Et même pour les produits donc les produits de première nécessité ici donc qui sont ici, nous nous sommes référés à cette structure là. Donc nous sommes partis de cette structure qui existe pour maintenant faire autant pour les produits donc alimentaires. Donc le sel faisant partie des produits alimentaires, je pense qu'il fera aussi l'objet, n'est-ce pas, de concertations dans nos prochaines donc rencontres avec nos partenaires. Vous voyez que je donne les nombres de taxes, je l'ai dit tantôt. Les taxes sont nombreuses, elles dépendent, comme je l'ai dit, d'une province à une autre. Je ne pense pas que ce soit donc le moment idéal pour aujourd'hui donc évoquer ou parler des taxes qui existent dans notre pays.
Oui. Voilà, monsieur Christophe. Oui, monsieur Christophe. En fait, selon certains observateurs, cette décision à un certain moment n'avait pas fait l'unanimité, hein, notamment avec la FEC qui, en fait, ne parlait pas les mêmes langages avec le ministère. Est-ce qu'aujourd'hui, où en est-on? Est-ce que les violences se sont accordées avec les grands opérateurs économiques?
Faux. Il n'y a jamais eu donc un problème entre nous et la FEC. Jusqu'à ce jour, la FEC siège avec nous. Là, c'est une précision que je donne. Mmh. Et dans l'organisation même de la structure, la présidence est confiée donc au ministre et en charge de l'économie, et la vice-présidence à la FEC. Nous siégeons chaque lundi. Donc voilà au moins ce que je peux donc vous donner comme précision.
Alors, on va aussi, chercher à comprendre un peu ces propos de ministre lorsqu'il dit nous poussons toujours nos membres à la transparence, c'est-à-dire quand on a importé un carton d'un Piodi, qu'on puisse dire on l'a acheté à tel prix en Namibie, on a payé autant comme frais de transport, qu'est-ce que la douane a coûté, pourquoi les cartons est à tel prix. Est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup d'importateurs se sont livrés à cet exercice?
Si, je pense que c'est là où nous sommes maintenant. C'est pourquoi donc dans le comité de suivi, on a fait aussi appel chose à l'ANEP. Vous comprenez donc, mm-hmm. Il s'agit donc de la DGDA, mm-hmm. C'est ça, et puis l'OCC, OGFREM, tous les services donc portuaires, ils sont avec nous, ils sont représentés là-bas. Donc c'est pour que, quand il y a donc un problème qui est posé, qu'on puisse donc en discuter, que les services concernés puissent aussi se prononcer, pour donc dissiper donc le malentendu. C'est ça, c'est ce qui est fait, c'est ce qui se fait au niveau du comité de suivi.
Voilà, et Michel qui est à Matadi, une ville portuaire, où peut-être on pouvait sensiblement remarquer en fait la l'application de cette décision, il n'en est pas, hein, donc il a trouvé peut-être autre chose, parce que les plus grands importateurs, tout commence par là, à Matadi, à Boma.
Bon, une fois à cette question, je peux dire que nous sommes dans un processus, il ne faudrait pas que tous les problèmes se règlent en un jour ou en une réunion. On aura donc le temps d'en parler davantage.
Mmh. Alors on va prendre une autre série des auditeurs, tout en rappelant aux autres qui veulent bien intervenir dans cette émission. Ils n'ont qu'à composer les 081-890-43-39. Petit à petit, on s'approche vers la fin de notre émission. Jean-Pierre est à Issiro, gardez la ligne, on va vous accorder la parole d'un moment à l'autre. Et puis nous rappelons encore à nos auditeurs qu'ils peuvent nous adresser aussi leur message à notre adresse pa@radiocapi.net. Et ils peuvent aussi déposer le commentaire sur notre page Facebook.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioCapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et au Capi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioCapi.net, la radio en différé à votre service.
Voilà, nous rejoignons Jean-Pierre qui est à Issiro dans la province orientale. Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour à vous et bonjour à notre invité.
Voilà, Jean-Pierre, vous avez la parole. Votre point de vue.
Et d'abord, nous commençons par féliciter donc l'équipe qui est en train de faire ces choses pour la période de la fête. Et nous, notre analyse est de faire un peu, de partager un peu ensemble. Vous voyez, ce que nous cherchons, c'est à baisser les prix pour la période de sécurité. Mais quel est l'impact qui se fait sentir maintenant sur terrain, surtout dans cette période? Vous allez voir que nous dépendons plus de l'extérieur. Si vous partez à Lubumbashi vers Kasumbalesha, nous dépendons des histoires qui viennent de la Zambie ou de l'Afrique du Sud. Et à Matadi, dans ce qu'on voyait, que beaucoup de choses entrent. Et lorsqu'on baisse les prix, il y a des choses que les gens ont déjà stockées. Il y a des histoires qui sont déjà arrivées, qui vont créer un peu de retard pour que cela puisse arriver jusqu'au niveau de la population. Et de l'autre part, nous avons un autre problème, c'est au niveau des autres villes. Il y a des villes qui ne dépendent pas de ces importations. Donc, quand, par exemple, les riz arrivent en afflux vers nous à Isiro, les riz qui sont produits dans ces pays-là qui viennent de l'étranger, Thaïlande et des autres pays asiatiques, ces riz arrivent à un prix très bas, et cela dérange encore la population locale qui est en train de produire. La production, ça coûte encore moins cher que la production locale. Alors, je suis en train de me demander que quand on est en train de faire tout cela, qui est-ce qu'on est en train de protéger? Est-ce qu'on fait ça pour les grandes villes ou est-ce qu'on peut aussi savoir les impacts que ça peut produire dans les autres villes où il y a des productions locales? Ici chez nous, nous avons des producteurs locaux et lorsque les riz qui arrivent des pays où les agriculteurs sont financés, où les agriculteurs sont encadrés par leur pays, ça crée des problèmes au niveau de notre agriculteur qui est en train d'évoluer tout seul. Alors, moi je propose ici au secrétaire général, c'est que de telle mesure, il faut que nous puissions commencer à prendre ça bien avant. Nous voulons préparer la période, nous voulons que notre population puisse bien se nourrir. Il faut que nous puissions voir ce faire pour que nous puissions avoir une production dans notre pays qui ne dépende pas de l'extérieur. Chaque année, à cette période, on nous prend des mesures. Mais je ne sais pas, on les prend seulement pour que les gens puissent se nourrir à la période de la fête, et c'est tout. Ou qu'est-ce qu'on fait voir pour l'avenir? Parce que nous voulons bien vivre dans notre pays. Et pourquoi pas, à chaque début de l'année, vous puissiez prendre une mesure afin de préparer la fin de l'année, afin de faire en sorte que la production locale puisse s'accroître, afin de faire en sorte que nous puissions pêcher les poissons de notre pays, afin de faire en sorte que la production que nous avons faite dans les hauts Touélo, dans les bas Touélo, puisse arriver dans des autres places, la production qui est faite à l'Équateur puisse arriver dans des autres places. Donc, vous les tenez toujours à la fin de l'année pour que les gens puissent manger et après, nous allons rentrer à la normale. Donc, nous proposons à ce que des mesures comme ça soient prises bien avant pour qu'on puisse étudier ce qui peut avoir comme impact dans la capitale, à Lubumbashi ou à Kisangani, et aussi dans les villes qui produisent, dans les autres milieux où il y a des grandes productions. C'est un peu ça notre point de vue.
Oui, merci beaucoup Jean-Pierre. Nous avons compris que votre souci, hein, c'est que une telle décision puisse s'inscrire vraiment dans la durée. Il ne faudrait pas qu'on puisse prendre des décisions d'une manière saisonnière et qu'après qu'on revienne à la case de départ. Et ça donne l'impression de construire un opium du peuple. Voilà, donc il faut les endormir à un moment et puis ils vont se réveiller après. Donc merci beaucoup Jean-Pierre d'avoir appelé d'Isiro. Ogi est à Kikwit. Ogi, bonjour.
Bonjour, J.L. Longuembo, je suis Ogi Bendelo, je vous appelle de Kikwit dans la province de Bandundu.
Ogi Bendelo, vous avez la parole, votre point de vue.
Merci de m'avoir accordé la parole, J.L. Longuembo. Je salue, mais pas avec énergie, ce programme. J'ai d'abord une inquiétude, et voici cette inquiétude-là. Son Excellence, le ministre d'Économie, pouvait commencer d'abord par les moyens de transport, donc arranger. Vous savez, M. J.L., l'état de nos routes sont vraiment délabrés. C'est pourquoi vous allez remarquer que ce que coûte un carton de Chansard à Kinshasa, ça, ce n'est pas le même prix à Kikwit, soit chez Elodie à Gemena. Et d'ailleurs, je venais de. Il y a une amie que j'ai demandé, elle reste à Boutembo, c'est Merveille Bita qui est étudiante à l'Université catholique du Gabon. Elle me dit que ces poissons-là ne sont plus consommés là suite à l'augmentation des prix. Vous allez remarquer que. Un véhicule qui quitte Kinshasa pour arriver à Kikwit, ça va arriver presque après un ou deux jours parce que la route vraiment est en bon état. Maintenant, le véhicule qui quitte Kikwit pour arriver à Tikapa, ça va passer plusieurs semaines. Et maintenant, on ne va pas mettre des cartons de pioches qui sont d'abord très fragiles dans un véhicule pour arriver à Tikapa. Et c'est pratiquement impossible pour qu'un poisson de pioche coûte le même prix à Kikwit et à Kinshasa. À Kikwit et à Tikapa, à Kikwit et dans d'autres provinces. C'est pourquoi. Son Excellence devait d'abord commencer par arranger l'état de nos routes qui sont très délabrées et pour passer ensuite de régler la diminution des prix. Et aussi ce qu'a dit notre ami,
Par exemple, à côté de moi ici, moi je suis un photographe, je travaille dans un studio de photos. Il y a vraiment les agents qui passent à tour de rôle. Je paye la Sokoda, des gérards, des GI, environnement, culture, art, PMEA, pour le fait que c'est là. Et bien maintenant, je vous demande, monsieur JR, je demande d'abord la question directe à notre invité. Je tire une carte à 1000 francs. Maintenant, je vais laisser le prix de la carte à 700, 800, 900. Et maintenant, je vais le faire par rapport à quoi aussi longtemps. Je dois manger, je paye les taxes et impôts qui sont à multiples rôles. C'est pourquoi vraiment j'ai une inquiétude. C'est pourquoi je voulais demander à notre invité de pouvoir d'abord commencer à supprimer la multitude des taxes et à songer d'abord à l'état de développement des routes et à faire planir nos routes.
Voilà, je crois que voilà, on vous attend bien, 5 sur 5. Donc notre invité vous donnera la réponse tout à l'heure. Ben, il faut noter toujours que la question, la plus grande question ici, c'est autour de la marge bénéficiaire. On sait que tout commerce appelle le bénéfice, mais les autorités veulent bien réguler les choses de manière à ce que la marge bénéficiaire ne soit pas supérieure, donc trois fois supérieure à la marge légale. Donc c'est en fait c'est ça l'objectif. Nous allons revenir avec notre invité tout à l'heure. Il est temps pour nous de vous rappeler encore, chers auditeurs, vous qui souhaitez prendre encore part à ces débats, donc composez les 081 890 63 15. Nous avons en ligne Christophe Kalala Mbayo, qui est secrétaire général à l'économie. Monsieur oui. Christophe, vous avez suivi d'ailleurs le tout dernier auditeur qui vient de poser une question directe.
Oui, je l'ai bien suivi. Je pense qu'il doit quand même comprendre que le problème de route, c'est vraiment une préoccupation du gouvernement. C'est un programme qui est déjà donc en exécution c'est depuis plusieurs années, plusieurs mois. Et puis, il doit savoir que on ne peut pas donc seulement parler de routes sans parler donc du panier de l'aménageur. Donc là, il doit comprendre que la population a aussi besoin donc de la santé. Elle doit donc acheter, n'est-ce pas, donc comment dire, ces produits tels que nous le faisons maintenant à des prix donc justes. Voilà au moins la préoccupation. Pour donc terminer, j'ai dit, les routes sont là, le gouvernement s'y attelle, le programme est là, il est en cours d'exécution, je pense que le problème ne se pose pas à ce niveau.
Alors donc il a parlé de prix, il y a aussi Ogui Bendelo qui se souciait donc de toutes ces mesures qui sont prises sans des mesures d'accompagnement, des mesures d'encadrement.
Merci.
Voilà, monsieur le secrétaire, vous êtes encore avec nous en ligne, on va prendre encore deux autres auditeurs, Aloïs qui est à Kananga et Freddy à Lubumbashi. Aloïs, bonjour.
Bonjour cher Lungembo et bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Vous avez la parole Aloïs pour votre point de vue.
Merci beaucoup pour la parole, messieurs les journalistes, mais aussi pour le choix de ce thème combien important. En entrant dans la thématique du jour, il faut dire que la décision est salutaire, ou dirais-je salutite, pour la population qui, malheureusement, donc cette décision est malheureusement venue plus tôt, en se passant des conditions, sinon des étapes aussi importante qui pouvait l'influencer. C'est, entre autres, ce qu'ont dit mes prédécesseurs, la faible productivité à laquelle il faut faire face. Donc, en s'intéressant beaucoup plus au secteur agricole pour pouvoir pallier à cette difficulté. La population à laquelle je fais allusion, en disant que la mesure lui est salutrice, est une population abandonnée.
Aloïs, s'il vous plaît. Aloïs, je crois que vous avez beaucoup à dire. Hein. Nous vous gardons toujours en ligne. Donc restez en ligne. On va vous accorder, on va revenir encore à vous pour poursuivre cette émission juste après le bulletin d'information. Donc restez en ligne et même Freddy également. Alors nous poursuivons parole aux auditeurs avec notre auditeur qui est en ligne, Aloïs, qui est à Kananga. Aloïs, vous êtes avec nous?
Oui, monsieur Gère.
Alors, tout à l'heure, vous parlez de la faible productivité et lorsque vous voulez poursuivre, on l'avait interrompu. Alors, est-ce que maintenant, vous avez encore la parole?
Oui, je faisais aussi allusion à la population qui est abandonnée, c'est-à-dire, elle n'est pas encadrée en rapport avec la ventilation des prix, par exemple. De leur côté, les importateurs se sont déjà habitués, monsieur Gère, si je ne m'abuse pas, dans une latitude de fixation des prix à leur gré. Qui les a habitués, c'est l'État. Et maintenant que la décision est prise par le gouvernement, pour renverser la tendance de la flambée des prix, la question que je me pose à mon niveau était celle de savoir, est-ce que cette décision, dirais-je, est-ce qu'il y a, il y a eu des concertations au départ entre l'État et les acteurs de cette dite hausse des prix? Et si oui, quelle garantie, parce que nous le savons par définition que le commerce est un risque. Alors, en cas de risque de la part des commerçants, quelle garantie l'État compte entrevoir pour ce dernier? Et je me demande aussi, en cas d'échec de cette mesure, adviendra-t-il pour notre économie? Voilà.
Voilà, merci beaucoup Aloïs, parce que là il s'agit d'une question directe. Nous revenons à vous, monsieur le secrétaire général. Monsieur Christophe Kalala, vous êtes avec nous? Voilà, dommage, on a des petits soucis sur la ligne de monsieur le secrétaire général, Christophe Kalala Mbayo, qui est secrétaire général à l'économie. On va prendre plutôt Freddy qui est à Lubumbashi. Freddy, bonjour.
Bonjour JR, c'est Maître Freddy Maheng de Lubumbashi. Merci de m'avoir donné l'opportunité d'intervenir à ce sujet combien important. Sinon, la mesure prise par le gouvernement est une mesure tellement salutaire. Mais je me demande si notre gouvernement se rend compte des principes de la fixation des prix. Il est vrai, il est bien bon de vouloir, n'est-ce pas, essayer de réglementer. Mais vous savez que lorsque l'exécutif ou le gouvernement s'interpose dans la fixation des prix, il y a des conséquences. C'est pourquoi cette mesure qui est prise en aval, moi, je ne suis pas en train de l'embrasser. J'aurais souhaité que le gouvernement, parce qu'il y a les éléments qui déterminent la fixation des prix, il y a les éléments qui poussent les opérateurs économiques à fixer la marge bénéficiaire telle que nous sommes en train de vivre actuellement. Et parmi ces éléments, nous allons parler de la production. C'est ça la loi, le principe boulevard même. Plus il y a la production, donc en cas d'abondance, les prix diminuent. En cas de carence, les prix augmentent. Ça, c'est tout à fait normal. Donc si le gouvernement avait vraiment intention de nous aider, nous, la population, notre gouvernement commencerait par produire, c'est-à-dire favoriser la production interne. Parce que si vous regardez de très près, nous sommes en train d'importer plus les vivres, les produits vivriers, les nourritures, tout ça. Et alors que tout cela se produit dans notre pays, c'est cette production qui n'est pas politisée. Donc il n'y a pas une politique de production interne, d'encourager la production interne au lieu de s'interposer dans la fixation des prix juste en pleine opération. À part ça, cette production, je pense que ça existe. Pour le cas des riz de poisson, nous sommes dans un Congo pour quiconque maîtrise bien le Congo, connaît qu'on peut tout produire et on produit. Mais le grand problème, c'est le transport. Est-ce que le gouvernement ne devrait pas, n'est-ce pas, faire une politique de telle sorte qu'on pouvait désenclaver les milliers ruraux qui sont en train de produire du riz, de manioc, de maïs, des produits vivriers qui sont en train de se pourrir? Le gouvernement ne pouvait-il pas essayer de fournir les... Parce que nous voyons le gouvernement en train d'enjoliver les grandes villes, qui sont des villes qui consomment, et maintenant voici les conséquences, les nourritures, les productions des paysans sont en train de se pourrir là, et la conséquence est incontournable, quoi. Nous devons alors savoir que les prix ne doivent être rehaussés.
Oui, mais
la fin des comptes, à la fin des comptes, je parle de la réduction des taxes, sont là les éléments qui déterminent les prix. À part les prix d'achat, il y a les valeurs ajoutées. Et parmi les valeurs ajoutées, nous avons les transports. Vous comprenez que quelqu'un qui quitte Kinshasa vers Kindu, je parle de la ville de Kindu, où les Thompson coûtent extrêmement très cher, c'est le problème de l'avion. Quelle est la politique du gouvernement quant à ça? Donner des propositions telles que les propositions que nous avons concernant la marge des bénéficiaires, c'est une chose et c'est salutaire, mais il faut savoir que lorsque le gouvernement s'interpose à des prix sans avoir au préalable sollicité l'aval de l'opérateur économique, l'opérateur économique peut se dire non, moi je ne vois pas mes intérêts dans ce que vous êtes en train de fixer là-bas et carrément je ne viens plus là-bas. Alors conséquence, pour une mesure qui va durer, nous avons besoin d'une mesure qui dure, une mesure qui va rester. La mesure là, c'est encourager les producteurs locaux,
faciliter la mobilité, ouvrir les voies de transport, les routes de dessert agricoles, réduire les prix des avions. Il y a des produits qui, inévitablement, ne doivent pas voyager que par avion. Réduire ces prix-là. C'est tout ce que j'avais comme intervention quant à ce sujet.
Freddy, tout à l'heure, vous avez abordé la question également de la marge bénéficiaire. Je crois que c'est là le nœud du problème. Aujourd'hui, les rapports du cabinet d'études internationales MENA Finance a même révélé que la marge bénéficiaire des importateurs en RDC se situait à plus de 33%, soit trois fois supérieure à la marge légale. Voilà. Donc là, c'est déjà un problème.
Oui, je pense que ça, c'est un problème. Le problème de la marge bénéficiaire, c'est un problème. Et les experts, là, ils se sont basés sur quelles données? Je pense qu'ils se sont basés que sur la ville de Kinshasa. Parce que nous avons un problème dans notre pays. Il y a des produits qui ne varient jamais. Les gens, la population connaît déjà que tel produit coûte autant. Quelle que soit la carence, quelle que soit l'abondance, ça ne coûte que autant. Et lorsqu'il y a l'abondance, que si vous vérifiez, vous êtes en train de chercher la marge bénéficiaire, vous allez vous rendre compte que c'est excédentaire. Mais lorsqu'il y a la carence, vous allez vous rendre compte que l'opérateur économique est en train de travailler dans des risques. Le problème, si aujourd'hui on est en train de, nous voulons légitimer ou légaliser la marge bénéficiaire, c'est une solution, oui, bien sûr. Mais le problème, c'est encourager les producteurs pour qu'on ne parle plus de marge bénéficiaire. Si on ne produit pas, on est appelé à être à genoux, à se courber devant celui qui produit. C'est un problème, bien sûr, mais il faut encourager la production locale. Là, on saura bien réglementer la marge bénéficiaire de la production locale. Mais si vous tenez compte de tous les paramètres qu'il y a pour arriver à vendre dans notre pays, entre autres, les coûts de transport, je souligne là-bas, à part les transports, les différentes taxes, si vous mettez en compte tous ces éléments-là, vous vous rendrez compte que l'opérateur économique travaille dans des risques terribles.
Merci beaucoup, Freddy. Nous rendons à Béni pour retrouver Dr Bintou. Dr Bintou, bonjour.
Bonjour, M. JR. Bonjour à tous les auditeurs.
Voilà, nous avons évoqué tout à l'heure avec Freddy de Lumbashi le principe de fixation des prix, là où il a évoqué l'élément boulevard, d'ailleurs, qui est très important, à savoir la production. Est-ce que vous partagez cet avis? Parce que lui, il a semblé normalement rejeter en bloc la marge bénéficiaire au profit de la production.
Bon, ça fait partie des éléments que je voulais demander au secrétaire général, malheureusement, c'est comme s'il n'est plus en ligne, puisque j'avais un peu beaucoup de questions à lui poser sur le sujet. Premièrement, s'il disposait des statistiques d'un élément dont on avait déjà pas, dont il a cité comme les cantons de Chinchard, si on pouvait avoir les prix de 1980, à 90, de 2000 à 2010, pour savoir qu'est-ce qui a expliqué le changement de prix pendant toute cette période des mêmes cartons. Si je prends l'exemple, en 1995, à Kinshasa, les cartons de Thompson, on achetait cela, au début cherchait, on achetait à $30. En 2012, les cartons révélaient déjà à plus de 75 000 francs. Qu'est-ce qui a expliqué le changement de ces prix-là pendant cette période-là, pendant que les cartons est resté les mêmes avec le même contenu? C'était des questions que je voulais avoir des réponses, malheureusement, si je peux revenir afin de donner la réponse à cette question-là. En plus, pour savoir quel était le prix d'achat, comme notre auditeur, mon précédent auditeur qui a parlé du problème du bénéfice, quel est le bénéfice légal en République démocratique du Congo qu'un commerçant doit faire? Donc, si tout cela est déterminé, pourquoi on ne les applique pas? Dans notre pays, nous avons un problème d'application des lois. Et l'autre question que je voulais poser à M. le secrétaire, c'est de savoir où est-ce qu'ils en sont avec les mesures d'application sur le petit commerce qui était réservé uniquement exclusivement aux Congolais. Quel est le résultat aujourd'hui? Si on continue à prendre des mesures et qu'on n'arrive pas à les appliquer, ces mesures-là ne serviront à rien pendant que ça ne va pas bénéficier aux Congolais. Donc, pour terminer, vous savez, si l'économie de notre pays est en train de bouger en grande partie, c'est puisque l'économie de la RDC est à 90% entre les mains des expatriés. Qu'est-ce que le gouvernement congolais fait pour permettre aux Congolais de jouer un grand rôle dans l'économie congolaise, afin que le Congo ait aussi un fonds Puisque si aujourd'hui les expatriés décidaient de quitter la RDC, le colonel de la RDC restera avec quoi?
Merci beaucoup, Dr Bintou. On va terminer avec Godefroy qui est à Ouvira. Godefroy, vous avez une minute. Bonjour.
Oui, bonjour, mon cher ami. Je pense qu'à suivre le secteur général de l'économie, je pense que le chef de l'État a raison, franchement, d'avoir projeté de changer le gouvernement. Est-ce que vous imaginez ce qu'il est en train de dire là, mon frère? En 2007, nous sommes au niveau de Kinshasa, à l'économie, au ministère de l'économie. Je suis, conseiller administratif et financier à l'économie. Eh bien, un ministre entre en fonction, M. Moïse Nyarugaba. Je ne fais pas son apologie parce qu'il nous est défendu de le faire.
Oui.
Mais il arrive, s'il vous plaît, l'estimat était au retour de 22. Et nous faisons tout, l'estimat est revenu entre 12 et 13 dollars américains. Vous vous imaginez, ces gens-là, ils sont 15, hein, à Kinshasa, ceux qui importent, ceux qui prennent l'estimat vers Sinat, Silo, tout ça, ils sont au nombre de 15 seulement. Quel défilé, s'il vous plaît, pour voir comment arranger tout ça, le ministre a dit niette. Et il a, on a maintenu ce prix-là jusqu'à ce qu'il est sorti, le gouvernement Gizenga est arrivé. Et le prix a subitement grimpé de 20 à 22.
Voilà,
donc c'est un problème de moralité. C'est un problème de moralité, mon frère. Je pense que ce sont des hommes qui manquent dans ce pays. Ce n'est pas un problème de prix, importation, etc. Non,
voilà,
non, c'est un problème
d'hommes. Merci beaucoup, Godefroy. Godefroy, merci. Nous n'avons plus assez de temps. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir participé à ces débats. Merci à Héritier Sidiakala, à Piro Elameji, Nadine Foula et Tite Poutou pour la réalisation de cette émission qui a été présentée par J.R. Lungembo sous la supervision de Nicole Ngaka. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Okapi.